9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
On peut dire de la carrière de Balzac qu'elle commence avec la Monarchie de Juillet. Dans les 5 premières années de la décennie 1830, il va publier une quarantaine de romans. Et il y a là-dedans le colonel Chabert, Eugénie Grandet, dont vous connaissez l'incipit saumurois. Il se trouve dans certaines villes de province des maisons dont la vue inspire une mélancolie égale à celle que provoquent les cloîtres les plus sombres, les landes les plus ternes ou les rues les plus tristes. Il y a ce conte philosophique également, la peau de chagrin, et dans la préface, Balzac explique que l'écrivain, je cite, « se doit d'avoir en lui je ne sais quel miroir concentrique où, suivant sa fantaisie, l'univers vient se réfléchir ». Il va plus loin encore dans le chef-d'œuvre inconnu, je cite, « la mission de l'art n'est pas de copier la nature, mais de l'exprimer. Nous avons à saisir l'esprit, l'âme, la physionomie des choses et des êtres ». Balzac va jusqu'à écrire dans une lettre à sa mère « Tôt ou tard, la littérature, la politique, le journalisme, un mariage ou une grande affaire me feront une fortune. » Il a séduit à l'époque la duchesse d'Abrantès, s'entiche de la marquise de Castres, de vieille noblesse. Elle le congédie en passage comme un valet. Ça ne l'empêche pas de mener grande vie et grand train. Balzac, il joue au dandy, dans son cabriolet anglais, dernier cri, loue une loge à l'opéra. François Taillandier, dans un Balzac qui est paru il y a une vingtaine d'années maintenant, nous brosse ce portrait. Son côté provincial et balourd lui nuit quelque peu, et certains plaisantent sa manie de se faire appeler de Balzac. De plus, il n'est pas beau, il est de taille plutôt courte, gras, guetté même par l'obésité au dire de certains. Les caricaturistes ont saisi cette rondeur sans lourdeur, elle semble flotter comme un ballon. Il a les dents abîmées, il salive abondamment, la première impression est donc en général négative, mais pour peu qu'il surmonte sa timidité, parvienne à se sentir en confiance, sa faconde, sa drôlerie, sa réelle gentillesse lui conquièrent les âmes. Et puis, il y a son regard. Tous ceux qui l'ont rencontré alors évoquent le regard de Balzac, un regard noir empreint de douceur et de gravité qui tantôt pénètre et semble sonder implacablement les reins et les cœurs, tantôt se fait vif, rieur, amical. Ce qui prime, c'est sa gaieté, son côté bon vivant, pétulant, enthousiaste. Balzac parle beaucoup, il soliloque même, il questionne, écoute toujours à l'affût des émotions qui viendront animer ses personnages ou les détruire. Mais avant tout, surtout, Balzac sait voir.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
C'est chez une nourrice tourangelle qu'il avait vécu ses premières années honoré Balzac. Sous le consulat, il était un peu éloigné d'un père qui était directeur des vivres à la 2e division militaire. Sa mère était plus jeune, caractérielle, personnage un peu volage. « Je n'ai jamais eu de mère », écrira-t-il même plus tard à une confidente. Ensuite, ce sera la demi-pension, puis le collège des oratoriens de Vendôme. Un peu une prison, on est sous le Premier Empire à l'époque. Honoré déprime, on doit d'ailleurs le retirer de ce pensionnat, et l'année suivante, son père est muté à Paris, et voilà toute la petite famille dans le Marais. Lui va devenir clerc de notaire. C'est intéressant d'être clerc de notaire quand on veut voir un peu la société avec tous ses travers, tous ses vices, n'est-ce pas? Il voit là les gens qui sont là avec leurs ambitions et leurs petits intérêts, leurs escroqueries. Mais il annonce à ses parents qu'il veut être écrivain. Eh bien d'accord, t'as 2 ans pour faire tes preuves, nous verrons. Et on lui loue une petite chambre vers la Bastille. On lui verse une toute petite pension et il va mener cette vie d'ascète qui ne l'empêche pas de se promener partout, dans le faubourg Saint-Antoine, dans ce quartier du Marais où découvre le Paris des ouvriers, des maraîchers, des bistrots. On est à l'époque de la Restauration, on est sous Louis XVIII maintenant. Je savais déjà de quelle utilité pourrait être ce faubourg, ce séminaire de révolution qui renferme des héros, des inventeurs, des savants pratiques, des coquins, des scélérats, des vertus et des vices. Vous ne sauriez imaginer combien d'aventures perdues, combien de drames oubliés dans cette ville de douleur. L'imagination n'atteindra jamais au vrai qui s'y cache et que personne ne peut aller découvrir. Il faut descendre trop bas pour trouver ces admirables scènes ou tragiques ou comique, chef-d'œuvre enfanté par le hasard. Voilà l'inspiration de Balzac, qui s'essaie un tout petit peu à la tragédie avec un Cromwell qui fait rigoler tout le monde, mais après tout, n'est pas tragédien qui veut, hein, c'est ce qu'il dit lui-même. Il va, ce Balzac, travailler à des petits romans, à la mode. Il est assez timide et complexé, hein. En allant voir ses parents, qui maintenant sont à Villeparisis, il rencontre une voisine qui s'appelle Madame de Berny. Elle est plus âgée que lui, elle a 44 ans, il en a 22. Mais c'est elle qui, d'une certaine façon, va l'initier au monde. Il faut quand même qu'il trouve son style, qu'il l'affine, il faut qu'il trouve son public. Pour l'instant, tout ça est bien difficile. Il y a un ami de son père qui lui suggère de se lancer dans l'édition. Alors, il va fonder une petite maison. D'ailleurs, il publie La Fontaine et Molière en petit format. C'est un peu l'ancêtre du livre de poche. Mais disons-le, c'est un fiasco dont il ressort avec 70 000 francs de dette. Vous imaginez ça? Et il lui faut maintenant, pour rembourser tout ça, écrire toute la journée, une partie de la nuit, toute la nuit. Bientôt, c'est pas une vocation là, c'est une nécessité. On est sous le règne de Charles X maintenant. En 1829, ça veut dire que Balzac a 30 ans, il signe son premier roman à son nom, c'est Le Dernier Chouan, et il signe Honoré de Balzac. Cette fois, les critiques lui trouvent un certain talent pour la description de la province, de ses habitants. Des lecteurs l'achètent. Balzac est invité dans les salons. On le considère comme un écrivain qui sait voir, qui voit tout, un écrivain visionnaire. Un petit bout de symphonie fantastique de Berlioz, ça ne fait jamais de mal. L'orchestre symphonique de Chicago était sous la direction de Claudio Abbado.
Vous écoutez Radio Classique.
Début 1832, Balzac s'est retiré un peu en Touraine à Saché, dans un joli petit château qui appartient à des amis. Et il reçoit là la lettre d'une admiratrice qui signe L'Étrangère. Il est intrigué, il répond, c'est le début d'une incroyable relation épistolaire avec cette étrangère qui s'appelle en vérité Evelyn Anska, qui vit à Odessa, qui fait donc partie de l'aristocratie ukrainienne, et les lettres nous fournissent sur la personnalité, le travail, l'ambition du romancier des indications qu'on ne trouverait nulle part ailleurs. Voici ce qu'écrit Balzac par exemple. Les études de mœurs, c'est un de ses livres ça, représenteront tous les effets sociaux sans que ni une situation de la vie, ni une physionomie, ni un caractère d'homme ou de femme, ni une manière de vivre, ni une profession, ni une zone sociale, ni un pays français, ni quoi que ce soit de l'enfance, de la vieillesse, de l'âge mûr, de la politique, de la justice, de la guerre, ait été oublié. Gigantesque ambition pantagruélique, si j'ose dire, par rapport à ce que nous disions l'autre jour. Il vit à Passy maintenant, hein, Balzac, dans cette petite maison qui existe toujours en contrebas de la rue Raynouard, là, et que je vous invite à aller visiter. Il travaille du matin au soir, souvent du soir au matin, dans son espèce de robe de moine, avec des cafés pour tenir le coup. Et il écrit à Madame Anska, pour écrire, ainsi que je l'ai toujours fait, des ouvrages au pied levé en 6 ou 10 ou 15 jours. Il faut se lever à 2 heures dans la nuit et travailler 15 heures de suite. Pendant les intervalles, on pense au fil de l'intrigue, aux scènes à leur disposition, puis mettez avec cela les exigences des affaires, des conférences, des courses. Les 24 heures, dont 7 appartiennent au sommeil, sont toujours trop courtes. Je ne crois pas que j'atteigne à l'année prochaine sans quelques catastrophes de fortune ou de santé. D'ailleurs, il était assez lucide là-dessus. Il disait, formule extraordinaire et lucide, « J'arriverai tué ». Balzac a cette idée qui a commencé à se forger et qui finalement devient l'idée de génie de toute cette affaire, c'est de faire revenir d'un roman à l'autre des personnages qu'on a déjà vus, de créer toutes sortes de types sociaux, psychologiques, Rastignac qui incarne l'ambition, mais qui acquiert aussi son existence autonome avec sa vie avant et après le père Goriot. Tous ces personnages deviennent plus vrais que nature, ils font presque partie d'une famille imaginaire des lecteurs, y compris pour Balzac lui-même, qui vit avec eux. Un jour, il dit « Je pars à Alençon où habite Mademoiselle Cormon ». Mais Mademoiselle Cormon, elle n'existe que dans le roman « La vieille fille ». Avec ces personnages, toutes ces histoires qui se tirent et s'imbriquent, ces histoires enchâssées les unes dans les autres, Balzac est en train de construire un gigantesque temple pour comprendre cette société française qu'il connaît et qu'il voit mieux que quiconque. Il veut, dit-il, écrire les 1001 nuits de l'Occident. Et le public le suit dans les mésaventures de Lucien de Rubempré, des Illusions perdues, ou de César Birotteau, le boutiquier, vous savez, qui va se lancer dans la spéculation. En 1840, Balzac trouve le titre de cette sorte de cathédrale d'encre et de papier, ce sera « La comédie humaine ». Un écho de la Divine Comédie de Dante. C'est une comédie, la société, pour Balzac. Humaine, parce qu'il voudrait la représenter en entier. Alors, il va trouver un groupe d'éditeurs, publier 7 volumes en 4 ans. Il corrige les épreuves sans cesse. Il écrit, veut tout reprendre. C'est un ogre. Je parlais de Pantagruel. C'est Gargantua. Il tente encore de faire fortune dans la presse, presque pour laquelle il n'a pas d'ailleurs un grand respect. Il va faire des projets qui capotent et qui le laissent avec 250 000 francs de dette. Or, novembre 1841, là c'est le grand bouleversement, le mari d'Ève Anska est mort. Balzac est ravi. Il se dit que ça y est, il va pouvoir faire ce bon mariage et connaître un peu de repos. Sauf qu'Ève n'est pas pressée, elle a tellement de choses à régler en Ukraine. Balzac se rend quand même à Saint-Pétersbourg pour la retrouver. Il s'était pas revu depuis 7 ans. Voyage terrible et épuisant. Et puis Madame Anska finit par venir à Paris. Balzac a acheté rue Fortuné, qui est aujourd'hui la rue Balzac, bien sûr, à l'angle de la rue du Faubourg Saint-Honoré, acheté une maison pas loin des Champs-Élysées, donc il engage là de grands travaux. C'est Ève qui paie, laisse repartir en Ukraine, et il commence « Splendeur et misère des courtisanes », la suite des Illusions perdues. Rubempré revient à Paris pour sa revanche avec l'aide de Vautrin, mais il échoue et Vautrin devient chef de la police, lui qui était ancien bagnard. On pense à Vidocq, bien sûr, et l'écrivain essaie d'être le plus inventif possible pour tenir face à un certain Dumas qui, avec ses 3 mousquetaires, avec sa reine Margot, lui taille des croupières, bien sûr, mais Balzac est ailleurs, lui. Balzac est dans une construction encore plus aboutie maintenant. C'est le sommet de son art. C'est la cousine bête et le cousin ponce, ce qu'on appelle les parents pauvres à la fin du grand œuvre. L'ultime chef-d'œuvre de Balzac, nous dit François Taillandier, le romancier épuisé reste prodigieusement égal à lui-même. Ce chant du cygne est une merveille. Ici, tout est violemment, farouchement, passionnément balzacien. La férocité, la vigueur du trait sont inouïes au cœur de ce Paris des bourgeois et des boutiquiers, confirmant l'intuition de ses 20 ans. Le romancier a trouvé la matière d'œuvres aussi fortes que les tragédies shakespeariennes. Les parents pauvres, c'est la 9e symphonie de Balzac. Et voici un exemple de cette tendre cruauté, de cette vacherie plus qu'humaine avec lesquelles il brosse le portrait du cousin Ponce, ce musicien collectionneur d'art et plus secrètement gastronome, un brin parasite et par compensation. Le malheureux fait l'objet, dès le premier quart du roman, d'une obscure cabale mondaine. Je cite Balzac, voici le cousin Ponce. Le cousin Ponce succomba donc sous un acte d'accusation d'égoïsme porté en arrière contre lui, car le monde finit toujours par condamner ceux qui l'accusent. Sait-on combien une défaveur imméritée accable les gens timides ? Qui peindra jamais les malheurs de la timidité ? Cette situation qui s'aggravait de jour en jour davantage explique la tristesse empreinte sur le visage de ce pauvre musicien qui vivait de capitulations infâmes. Mais les lâchetés que toute passion exige sont autant de liens. Plus la passion en demande, plus elle vous attache. Elle fait de tous les sacrifices comme un idéal trésor négatif où l'homme voit d'immenses richesses. Après avoir reçu le regard insolemment protecteur d'un bourgeois roide de bêtises, Ponce dégustait comme une vengeance le verre de vin de Porto, la caille au gratin qu'il avait commencé de savourer, se disant à lui-même « ce n'est pas trop payé ». Aux yeux du moraliste, il se rencontrait cependant dans cette vie des circonstances atténuantes. En effet, l'homme n'existe que par une satisfaction quelconque. Un homme sans passion, le juste parfait, est un monstre, un démiurge qui n'a pas encore ses ailes. Le premier mouvement de la célèbre 9e de Beethoven par l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig sous la direction de Herbert Blomstedt.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Une œuvre comme la comédie humaine n'a pas de début, n'a pas de fin, c'est monumental, ça va dans tous les sens avec des moments sublimes, des espèces de sommets, et puis de temps en temps, c'est vrai, des faiblesses, des choses, tout ça est composite, c'est la nature même d'un grand œuvre et on le lui reproche, certains critiques ne comprennent pas. Sainte-Beuve, à défaut de talent personnel, aime bien égratigner celui des autres. Et voilà ce qu'il dit. Balzac est en train de finir comme il a commencé, par 100 volumes que personne ne lira. Ben oui. Baudelaire est plus juste, sans doute, dans l'art romantique. J'ai maintes fois été étonné de la grande gloire de Balzac, fut de passer pour un observateur. Il m'avait toujours semblé que son principal mérite était d'être visionnaire. Et oui, c'est ça la différence. C'est un voyant, Balzac, une sorte de poète qui perçoit autre chose derrière l'apparence. Il est l'homme qui imagine à partir de ce qu'il voit. Alors sa vie n'est toujours pas simple. À partir de début 1850, il fait encore un voyage en Ukraine pour une nouvelle demande en mariage. Bon, cette fois, elle dit oui, Madame Anska, et c'est enfin le mariage après 18 ans de rencontre quand même. Il est à l'abri du besoin, notre Balzac, mais il a tellement travaillé. Dans quel état est-il maintenant? Il ne s'est pas ménagé. Hein. On le voit qui tousse, qui siffle et tremble, qui boit trop, qui mange trop, qui boit du café, qui ne dort pas assez. Il est exsangue et le voyage retour d'Ukraine achève notre homme. Ève découvre la maison qu'il a aménagée pour elle. C'est une espèce de palais des mirages. C'est quelque chose d'un peu étrange, un bric-à-brac avec des bibelots peut-être un peu matu-vu, des meubles de provenance dont certains diront qu'elle est douteuse, mais dont d'autres ne manqueront pas de souligner l'originalité. Elle est un petit peu dubitative, la comtesse, mais elle emménage quand même avec son diable de Balzac.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Balzac, honoré, dont la santé se dégrade de jour en jour, il écrit à Théophile Gautier d'une écriture tremblante « Je ne puis plus lire ni écrire ». Il va mourir péniblement quelques jours plus tard, il n'a que 51 ans, et pourtant, rappelle Pierre Anquetin qui a préparé cette émission et qui la suit depuis la coulisse, et pourtant, il laisse à la postérité 88 romans et plus de 2000 personnages. Qui va faire l'éloge funèbre de Balzac? Il fallait quelqu'un à la hauteur. Ce sera Victor Hugo. Il fouille le vice, dit Victor Hugo. Il dissèque la passion. Il creuse et sonde l'homme, l'âme, le cœur, les entrailles, le cerveau, l'abîme que chacun a en soi. Et par un don de sa libre et vigoureuse nature, par un privilège des intelligences de notre temps qui, ayant vu de près les révolutions, aperçoivent mieux la fin de l'humanité et comprennent mieux la providence, Balzac se dégage souriant et serein de ses redoutables études qui produisaient la mélancolie chez Molière et la misanthropie chez Rousseau. Je reviens pour finir au cousin Ponce. Sur la terre, dit Balzac, le juste c'est l'ennuyeux grandissant pour qui la Vénus des carrefours elle-même se trouverait sans sexe. Or, excepté les rares et vulgaires aventures de son voyage en Italie où le climat fut sans doute la raison de ses succès, Ponce n'avait jamais vu de femme lui sourire. Beaucoup d'hommes ont cette fatale destinée. Ponce était monstre né. Son père et sa mère l'avaient obtenu dans leur vieillesse et il portait les stigmates de cette naissance hors de saison sur son teint cadavéreux qui semblait avoir été contracté dans le bocal d'esprit de vin où la science conserve certains fœtus extraordinaires. Cet artiste, doué d'une âme tendre, rêveuse, délicate, forcée d'accepter le caractère que lui imposait sa figure, désespéra d'être jamais aimé. Le célibat fut donc chez lui moins un goût qu'une nécessité. La gourmandise, le péché des moines vertueux, lui tendit les bras. Il s'y précipita, comme il s'était précipité dans l'adoration des œuvres d'art et dans son culte pour la musique. La bonne chère et le bric-à-brac furent pour lui la monnaie d'une femme, car la musique était son état, et trouvez un homme qui aime l'état dont il vit. À la longue, il en est d'une profession comme du mariage. On n'en sent plus que les inconvénients.
Vous écoutez Radio Classique.
Et à propos de belles plumes et de beaux ramages, voici Monsieur Christian Morin. Mais oui, bonjour Christian.
Belles plumes peut-être, mais pas pour l'écriture.
Ah bon ?
Le dessin.
Le
bon,
dessin,
bon,
le
oui,
dessin,
oui.
Bien sûr.
Non, justement,
c'est une autre écriture.
J'envie toujours les grands auteurs, en particulier quelques auteurs, je pense à Jacques Brel ou Brassens, qui, en deux phrases, vous font tout comprendre, et ça me rapporte toujours à mes compositions françaises. Vous avez connu ça à l'école, ou dans la marge, le professeur mettait toujours « Morin, évitez les périphrases ». C'était toujours un peu trop long, ce qui m'arrive même à la radio, figurez-vous. Donc je vais faire court en annonçant qu'il y a La Bruyère évoquée à 14h, et qu'on va continuer dans ces grands auteurs, ces hommes de plume, comme vous y faisiez allusion, et le plaisir de vous retrouver demain matin.
Avec grand plaisir.